Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Coopération Mali, Burkina, Guinée, jusqu'où peuvent aller ces trois pays sur le thème du Grand Dialogue. Les chefs de la diplomatie du Mali, du Burkina et de la Guinée ont annoncé lors d'une rencontre la semaine passée le renforcement de liens historiques et de coopération entre leurs pays respectifs. Ces trois pays, dirigés par des transitions militaires, sont suspendus par la CEDEAO et l'Union africaine. Ils ont d'ailleurs demandé leur réintégration dans ces organisations. Dans quel domaine ces pays peuvent-ils renforcer leur coopération? Quels avantages tireront les populations de ce renforcement? Quel atout dispose-t-il pour peser dans la sous-région? Jusqu'où peuvent aller ces trois États dans le renforcement de liens de coopération? Studio Tamani pose donc le débat. Nos invités, Jean-François Marie Camara, enseignant-chercheur à l'Université de sciences politiques et juridiques de Bamako, Bakabeni Keïta, directeur de l'Observatoire du pouvoir et de la société et enseignant-chercheur à l'INSUP, Amassadou Guiré, chargé de projet à la société Burkina de géopolitique SBG au téléphone. Je suis Imran Akilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Bakabeni Keïta, quelle analyse faites-vous de cette décision des autorités maliennes, burkinabé et guinéennes?
Bien, écoutez, je pense que on a coutume de dire qu'il ne faut pas pousser les gens au dernier retranchement. Et donc quand vous poussez les gens au dernier retranchement, donc ils n'ont pas d'autre solution effectivement que de chercher à survivre. Et je pense que ces trois pays sont effectivement dans la logique de la quête de la survie, dans un monde aujourd'hui traversé par un conflit géopolitique, géostratégique extrêmement rude. Et donc je pense que ces trois pays, dans le contexte où nous sommes, en voulant en tout cas se donner la main les uns les autres, c'est une manière, vous le savez, pour rappel, le Mali a été sanctionné à un moment donné pour le motif, parce que le Mali a fait un coup d'État. Même si on voit d'autres coups d'État, si ce n'est pas dans la zone CEDAO forcément, mais dans la zone quand même de l'Union africaine, donc ces coups d'État n'ont pas été sanctionnés. Comme exemple de coups d'État militaires, le cas par exemple du Niger, le cas du Tchad par exemple. Donc je pense que ces pays voient un poids, deux poids, deux mesures. Au fait, il y a d'un côté les uns sont sanctionnés, de l'autre côté les autres ne le sont pas. Et donc je pense que le fait de se mettre ensemble, c'est une stratégie pour eux de brouiller en tout cas les lignes de partage. Et à un moment donné, effectivement, la CEDAO avait une ascendance nette sur ces pays qui se trouvent dans cette situation. Et aujourd'hui, si jamais la CEDAO ne fait pas attention, je crois que je l'avais déjà dit depuis fort longtemps, qu'il faut que la CEDAO sorte de ce que j'appelle la logique du principe formel, du principe des
nous
textes.
Nous allons parler plus tard de la CEDAO.
Et donc, il faudrait que la CEDAO revienne donc à la réalité. Donc, si vous voyez ces pays-là se mettre ensemble, c'est évidemment pour prévenir effectivement des éventuelles sanctions qui pourront être prises contre chacun de ces pays parce qu'ils sont confrontés à une crise extrêmement grave, le Mali, le Burkina notamment, depuis une dizaine d'années. Et donc la CEDAO est là, n'a pas osé, et il voit que probablement les élections ne pourront pas être tenues à la date indiquée. Forcément, il y aura les élections. Mais quand est-ce qu'il y aura les élections? Et ces pays se posent aujourd'hui la question parce que les origines de la crise ne sont pas traitées, et donc ça va être extrêmement difficile pour eux de s'asseoir d'aller vers des élections, c'est pour aller à d'autres coups d'État encore.
D'accord. Jean-François Camara, ces pays ont décidé d'aller ensemble dans la même direction. Est-ce que c'était prévisible?
Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation. Ça faisait belle lunette que je n'ai pas participé à vos différentes émissions compte tenu de mes différentes occupations. Je salue aussi les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent sur les différentes ondes. Alors, la question, elle est très pertinente par rapport à cette question de fédération entre le Mali, le Burkina et la Guinée qu'on a créée. C'est l'idéal que les États se regroupent pour faire face aux différents enjeux sociaux, notamment la question de la lutte contre l'extrémisme violent, la lutte contre le terrorisme.
Mais avant d'arriver à cette fédération, je parle juste du fait que ces pays-là se donnent la main pour aller ensemble, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine du transport. Est-ce que c'était prévisible aujourd'hui ?
C'était prévisible. Quand vous regardez l'historique même, l'histoire de ces trois États-là, vous allez voir depuis l'indépendance, les pères fondateurs de ces trois États ont décidé d'ailleurs de faire partie de ce qu'on appelle d'une fédération qui n'a pas abouti parce que la fédération, ça a été créée par, entre le Mali, le Sénégal, le Soudan qui est l'actuel Mali. Donc quand vous regardez les liens historiques entre ces différents États-là, je pense que c'était prévisible que ces trois États se donnent la main pour faire face aux différentes questions sociétales. C'est très crucial. S'ils ne se donnent pas la main, comme on dit, l'union fait la force aujourd'hui, quand vous regardez un État comme le Mali, un État comme le Burkina, à lui seul ne pourrait pas faire face aux différents enjeux, comme on appelle géostratégiques, géopolitiques. Donc ils sont condamnés, les trois États, de se donner la main. Mais dire qu'ils vont créer la fédération, c'est là où je suis un peu sceptique par rapport à la question de la création de la CEDAO et de la fédération.
D'accord. Assamadou Guiré, vous êtes chargé de projet à la Société Burkinabé de géopolitique. Vous êtes actuellement à Ouagadougou. Ces trois pays ont décidé la semaine dernière d'aller ensemble dans la même direction, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine du transport, dans le domaine de la sécurité. Est-ce que, économiquement, quel intérêt cette coopération peut avoir ?
Alors, merci infiniment à vous pour l'opportunité offerte à la Société Burkinabé de géopolitique de pouvoir s'exprimer sur les ondes de différentes radios et télévisions. Alors, je salue très respectueusement le peuple malien, le peuple guinéen ainsi que le peuple africain de façon générale. Il faut dire essentiellement que, vous savez, cette initiative n'est pas la première en Afrique. Vous savez que depuis les débuts des indépendances, les pères fondateurs justement de même l'Union africaine, de l'unité africaine, avait justement eu pour ambition de créer une sorte de fédéralisme ou du moins de fédération au niveau, donc, au niveau de l'Afrique de façon globale. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez l'engouement, lorsque vous voyez les revendications donc des différentes jeunesses, que ce soit celle du Mali, celle du Burkina, celle de la Guinée, il y a une sorte de proximité, il y a une sorte de lien et de solidarité entre justement les jeunes. Et vous savez également qu'aujourd'hui, le Burkina et le Mali traversent justement les mêmes réalités. Je vais parler naturellement de la crise sécuritaire. Et aujourd'hui, lorsque nous avons appris l'information selon laquelle les trois États, à savoir le Mali, le Burkina et la Guinée, ont décidé de se fédérer, de fédérer leurs initiatives, fédérer leurs actions, nous ne sommes pas étonnés parce que les choses étaient naturellement prévisibles. Maintenant, pour revenir à votre question quant aux enjeux économiques et autres, effectivement, vous savez que aujourd'hui, le Burkina Faso et le Mali représentent quelque chose de consistant en termes d'économie au niveau donc de l'espace et moi-même au niveau de l'espace CEDEAO. Et aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, les États ne pèsent que lorsqu'ils arrivent à se constituer en bloc justement pour revendiquer leurs intérêts. Et aujourd'hui, l'enjeu économique justement que nous pourrons tirer justement de cette affaire, c'est que vous voyez aujourd'hui que le Burkina Faso n'est pas en odeur de sainteté avec certains pays côtiers. Et notre Premier ministre disait lors d'une visite au Mali que certaines de nos armes commandées depuis l'extérieur seraient bloquées justement au niveau de certains ports. Et vous savez que il y a eu une visite de notre chef de diplomatie au niveau de la Guinée. Ça veut dire que nous, économiquement, nous pourrons justement nous faire ravitailler par le port de Conakry. Donc les enjeux sont multiples, sont immenses et denses. Et économiquement, je me dis que il y aura naturellement des initiatives à venir qui pourront justement laisser voir spécifiquement, du moins, c'est globalement les intérêts que les États, justement, tireront d'une telle fédération.
En dehors du port que vous avez énuméré tout à l'heure, est-ce que ces pays disposent-ils d'économies qui peuvent, d'autres économies qui peuvent leur permettre de peser dans la sous-région?
Oui, vous savez qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, a un seul constitué 20% de l'UOMOA. Et si on inclut la Guinée et on extrapole de façon globale au niveau de la CEDEAO, vous savez que ces trois États rassemblés justement constituent quelque chose donc de grand dans l'espace CEDEAO. Et vous savez également qu'aujourd'hui, la géographie compte énormément au 21e siècle. Aujourd'hui, nous avons, à travers justement l'espace même aérien de ces trois pays, aller avec une fédération pourrait être quelque chose de consistant pour non seulement du point de vue du transport, parce que c'est un domaine, c'est un volet également qui rapporte assez dans les économies des différents pays de l'espace CEDEAO. Et aussi, vous voyez que du point de vue des ressources minières et autres, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, justement, représentent quelque chose donc de très consistant en termes donc de la production d'or, là, en termes de la production donc de certaines matières minières. Donc, nous pensons que ce n'est pas une sorte de fédération. Je pense que nous estimons qu'il y a quelque chose donc de grand qui peut sortir donc d'une sorte d'une fédération. Maintenant, dans l'approche, dans les différentes démarches, souvent il y a des inquiétudes justement que nous pouvons relever.
D'accord. Bakabini Keita, quels en sont les avantages pour les populations de cette coopération entre ces trois pays?
Je voudrais d'abord dire que quant à l'idée qui est en train d'émerger, à savoir la mise en place d'une fédération, pour moi, c'est pas impossible. Et je reprendrai les mots d'un philosophe allemand, Friedrich Hegel, qui dit qu'il n'y a rien de grand dans ce monde qui ne se réalise sans passion, donc sans rêve. Ça paraît utopique aujourd'hui, effectivement, que ces pays parlent de fédération, mais je pense que c'est un processus aussi. Si on le voit peut-être en termes d'immédiateté, de construction immédiate, effectivement, de la fédération, on pourrait parler de cette manière. Mais quand on se situe sous un angle dynamique, progressiste, progressif, donc on pourrait effectivement comprendre que c'est une idée qui est émise, mais que ce n'est pas évident que pendant ces trois transitions, qu'on puisse arriver à la construction d'une véritable fédération. Mais donc la première étape serait de commencer par l'étape de la coopération sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan politique. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose pour moi. Quand même, c'est une très bonne initiative de la part de ces trois pays. Maintenant, vous demandez le poids. La question, c'est
les avantages pour les populations.
Les populations. Donc, vous savez aussi que ce qu'il faut aussi dire par rapport quant à moi, par rapport à l'optimisme de cette idée, c'est que ça arrive à un moment où ce sont les populations elles-mêmes qui demandent. Au départ, c'était les leaders. Et pendant l'ère des indépendances, l'idée de fédération venait des leaders. Mais aujourd'hui, ce sont les populations qui revendiquent le panafricanisme. Vous avez vu, quand le Mali a été sanctionné, on a vu l'intérêt que cela a suscité au niveau des populations, effectivement, de la sous-région. Le Burkina Faso, les gens ont marché. Et donc, dans tous les pays, au Sénégal, même en Côte d'Ivoire, il y a eu des prises de position pour soutenir le Mali. Donc, dans tous les pays de l'Union africaine, nous, on a vu partout des manifestations de soutien pour le Mali. Maintenant, qu'est-ce que les avantages pour les populations. D'abord,
dans cette coopération.
Oui, dans cette coopération, les avantages du point de vue administratif, les tracasseries administratives, notamment au niveau des frontières, ça pourrait effectivement endiguer donc ces problèmes-là. Mais d'un point de vue économique également, ça va fructifier davantage effectivement les échanges commerciaux entre le Burkina Faso le Mali et la Guinée, mais je sais aussi que peut-être que ça va venir progressivement. Dans l'immédiat, compte tenu du fait que les moyens de transport ne sont pas développés, ils sont rudimentaires parce que nous avons uniquement des routes. Donc le transport routier, on n'a que ça. Le transport ferroviaire, donc, n'existe presque pas. Donc peut-être que c'est en développant des initiatives de ce genre que ça va être une très bonne chose. Les avantages pour les, comment dirais-je, pour les populations, c'est que, au fait, nous, historiquement, nous sommes dans un même ère culturelle, dans un même ère historique. Donc, nous avons été, ces pays ont été divisés un moment par la. J'entends beaucoup de choses pour exprimer le pessimisme, par exemple. Il y a eu une première tentative de mise en place de cette fédération, comment dirais-je, entre le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Sénégal. Et à un moment donné, effectivement, il y a eu le retrait du Burkina Faso et puis. À l'époque, c'était le Dahomey, à l'actuel Bénin. Et donc, finalement, c'est resté entre le Mali et le Sénégal. Et par fini, le Mali est resté seul. Donc, autrement dit, la fédération a volé en éclats. Mais comme je l'ai dit, moi, je suis optimiste parce qu'aujourd'hui, la dynamique, c'est-à-dire qu'elle va dans le sens inverse. Ce n'est plus une revendication de l'élite politique, mais c'est plutôt une volonté exprimée au niveau donc, des populations. Et donc, je pense que les avantages sont énormes pour les populations de la sous-région, de ces trois pays.
D'accord. Ces pays ont demandé leur réintégration dans les instances de la CEDEAO. Jusqu'où peuvent aller ces trois pays au cas où la CEDEAO ou l'Union africaine n'accédait pas à leurs demandes?
Oui, j'avais effectivement commencé à amorcer la réponse à cette question. À l'époque, en ce moment, vous m'avez effectivement bien dit que donc ça viendra. Et je reviendrai là-dessus, qu'effectivement, sur ce même plateau, j'avais effectivement émis l'idée, j'avais conseillé à la CEDEAO de sortir de ce que j'appelle la logique du principe formel. Nous avons des textes qui condamnent les coups d'État, d'accord, mais le problème, c'est que nous avons aussi le terrain. Donc, il faut trouver une adéquation entre le terrain et la réalité. Malheureusement, la CEDEAO n'est pas allée dans cette dynamique. Ou en tout cas, elle est timidement allée dans cette dynamique. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, pour la CEDEAO, donc si jamais, en tout cas, elle n'agrée pas, en tout cas, à la demande de ces trois pays, donc je pense qu'ils vont précipiter, effectivement, ces trois pays, les uns les autres dans leurs bras. Donc, je pense que pour que la CEDEAO, pour que ces pays ne sortent pas de là, je ne suis même pas sûr également que même si la CEDEAO agrée à leur demande, que ça va, effectivement, arrêter la dynamique qui a été enclenchée. Parce que même si les leaders ne veulent pas aller dans ce sens, désormais, les populations risqueront de s'en approprier, donc de s'approprier donc de l'initiative et l'imposer effectivement aux différents dirigeants.
Monsieur Camara, la CEDEAO accepterait-elle d'accéder à la demande de ces différents pays?
Je crois que ça va être très difficile.
Pourquoi?
Parce que le chef d'État de la CEDEAO sont dans cette dynamique par rapport aux sanctions dont les États, le Mali et le Burkina, la Guinée souffrent. Les chefs d'État de la CEDEAO sont dans cette dynamique de maintenir ces sanctions-là pourvu que ces États parviennent à aller vers l'organisation des élections d'abord et le respect des chronogrammes donnés par ces États-là. Je pense que aujourd'hui, pour moi, la CEDEAO ne va pas tout de suite répondre à cette question de lever des sanctions. Elle va surtout demander, mettre pression toujours sur ces trois États. Elle va leur demander de respecter le chronogramme, c'est-à-dire le chronogramme.
Pour quel intérêt?
Parce que je pense qu'aujourd'hui, pour les dirigeants de la CEDEAO, aujourd'hui, il faut faire extrêmement attention. Pour eux, il faut faire extrêmement attention aujourd'hui parce que la situation du Mali est en train d'influencer d'autres États. Ça a été le cas au Burkina Faso, la prise de pouvoir par l'armée. Ça a été le cas en Guinée-Conakry. C'est pour cela que chaque fois qu'il y a des sanctions par rapport, quand il y a un coup d'État dans l'espace CEDEAO, quand les sanctions s'inscrivent on peut les analyser sous deux angles. Il y a ce qu'on appelle l'angle juridique. Les textes de la CEDEAO interdisent toute prise de pouvoir par les armes. que ce soit le coup d'État ensuite constitutionnel, les modifications, par exemple le chef d'État qui modifie la constitution pour se maintenir au pouvoir, pour se maintenir au pouvoir aussi, cela est aussi condamné. Mais nous avons vu par le passé que ça n'a pas été condamné par les instances de la CEDEAO, notamment le cas guinéen, le cas de la Côte d'Ivoire, on pourra en discuter après. Mais et le second angle, c'est l'angle politique. Quand il y a une prise de pouvoir par l'armée, la CEDEAO, les chefs bilatéraux de la CEDEAO se disent « Attention, il faut faire attention, cette situation pourra influencer d'autres États de s'inscrire dans la même dynamique. » Ça a été le cas au Burkina, ça a été le cas en Guinée. Donc pour dire aujourd'hui que les chefs d'État de la CEDEAO vont lever les sanctions concernant ces trois États-là, je suis totalement sceptique sur cette question.
D'accord. Monsieur Guiré, les trois délégations avaient affirmé la semaine dernière à Ouagadougou que les trois pays réaffirment leur attachement aux principes et aux objectifs de la CEDEAO. Qu'est-ce que cela sous-entend selon vous ?
Oui, vous savez que je pense que cela sous-entend l'unité des esprits. M. Keïta disait bien évidemment que le Mali, vous savez, l'année dernière avait été sanctionné. Et lorsque vous prenez la démarche dans laquelle la CEDEAO s'était inscrite pour sanctionner le Mali, elle ne respectait pas justement les normes justement juridiques. Et aujourd'hui, après le coup d'État du Burkina Faso et même celui de la Guinée, ces trois États ont été écartés donc de certaines instances, certaines institutions. Et aujourd'hui, c'est naturellement, on voyait justement les choses venir, des choses bénies, effectivement. Et cela sous-entend qu'il y a une sorte d'union, d'unité et de fédération des exclus donc de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas écarter des États, vous ne pouvez pas écarter des nations et refuser qu'elles se solidarisent ou refuser également qu'elles...
Vous êtes là ? D'accord. Il va certainement nous revenir. Cette idée de coopération entre les différents États peut-elle inquiéter les autres pays de la sous-région, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, dont les ports sont utilisés par ce pays?
Oui, mais c'est évidemment ça va les inquiéter. Et d'ailleurs, je crois que des voix commencent à se lever pour dire que nous sommes 15 et donc nous avons commencé 15, donc nous allons terminer, nous allons continuer à 15. Donc il n'y aura pas de fédération entre ces trois pays. Donc ces trois pays ne vont pas sortir. D'ailleurs, ils n'ont pas dit qu'ils vont sortir de la CEDEAO. Si on voit leur posture, c'est même une manière de dire que nous voulons faire partie. Ils expriment le désir effectivement de faire partie de la communauté, mais ça n'empêche pas peut-être aussi de mettre en place une autre organisation parallèle pour se défendre évidemment contre les abus, parce qu'il faut le reconnaître qu'il y a eu des abus, il y a eu des abus contre le Mali. Et si vous prenez les deux autres pays, et la CEDEAO même est consciente de sa fragilité, et c'est d'ailleurs pour cette raison, après le cas du Mali, il n'y a pas eu de sanctions contre le Burkina Faso, même s'il y a eu deux coups d'État également à ce niveau. Il n'y a pas eu de sanctions contre, véritables sanctions telles comme ça a été le cas contre le Mali. Donc nous n'avons pas vu de sanctions de ce genre contre ces deux pays. Pourquoi ? Parce que la CEDEAO sait qu'en se radicalisant, ça va effectivement pousser ces pays les uns, et chacun de ces pays dans le bras de l'autre. Et malheureusement, c'est ce qui est en train d'arriver. Maintenant, le fait, je partage l'idée de M. Camara en disant que il est sceptique en ce que la CEDEAO renonce en tout cas aux sanctions qu'elle a décidées contre ces trois pays. Mais malheureusement aussi, c'est cette radicalité de la CEDEAO qui risquerait de se retourner contre elle, parce que ça va effectivement renforcer ces pays-là dans leur... Parce que vous savez, c'est une alliance stratégique au fait. Donc une alliance stratégique entre ces trois pays, une nécessité qui les pousse aujourd'hui à se mettre ensemble pour faire face en tout cas au défi du moment. Et le défi du moment, c'est que ces trois pays sont confrontés à des crises. Et malheureusement, les problèmes qui ont conduit à ces crises, ces problèmes ne sont pas réglés et ces problèmes ne pourront pas être réglés au délai fixé par d'ici la fin du délai fixé par la CEDEAO. Autrement dit, ce qu'il
appelle... Effectivement, ces trois pays avaient affirmé d'ailleurs que la CEDEAO n'a pas fait des études sur les causes profondes qui ont amené ce changement.
Mais bien entendu, c'est-à-dire, c'est ça que moi c'est ce que j'ai dit, que le problème, c'est à chaque fois que quand il y a eu un coup d'État dans un pays, au lieu de chercher à savoir les causes profondes donc du coup d'État et trouver des solutions durables à l'instabilité politique, non, on se précipite, on se focalise sur les principes et on bâcle effectivement la résolution du problème et quelques années plus tard, on se retrouve dans un autre coup d'État. Donc, on ne sort pas du cycle de coup d'État. Et malheureusement, je terminerai par là. Vous savez, nous sommes des pays faibles. Parce qu'il faut le dire, ça peut pas. C'est-à-dire, il faut qu'on se dise certaines vérités. Nous avons vu des pays où, évidemment, je vais le nommer, notamment, vous prenez le cas de la France. Il y a eu le général de Gaulle, était un militaire, il a fait un coup d'État. Et évidemment, même s'il avait une bonne raison pour le faire, parce que son pays était en voie de disparition. Et donc, de 1900, je crois, il a fait sa déclaration le 18 juin 1940. Et donc, il est rentré en dissidence. De cette époque, après la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945, il est resté au pouvoir jusqu'en 1958. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu une seule élection, les élections législatives qui ont eu lieu en 1946. Après ces élections, il n'y a pas eu d'autres élections. Et vous imaginez, si on avait obligé les Français à faire les élections depuis 1945, est-ce que la France n'allait pas se retrouver dans les mêmes situations? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les pays africains vraiment grandissent et que les uns et les autres accèdent à leur souveraineté, prennent des décisions qui sont dans l'intérêt de leur population, donc qui cessent de regarder le visage des partenaires, même si ces partenaires sont importants. Il n'y a pas de petits pays. Tous les pays ont besoin les uns des autres. Nous avons besoin effectivement de l'Occident, de manière générale, mais les Occidentaux aussi ont besoin de nous. S'ils sont là, ils ne sont pas là seulement pour nos beaux yeux. Ils sont là parce qu'ils ont des intérêts dans nos pays. D'accord. Donc c'est ça que nous devons comprendre, qu'on cesse de trembler devant ces pays.
D'accord. Monsieur Camara, est-ce que vous partagez l'idée de Keïta qui disait tout à l'heure que nous sommes des pays faibles?
Alors, je ne dirais pas que...
Non, on se fait faible.
Voilà. C'est toutes ces questions quand les gens se disent on applaudit la Russie, on applaudit la venue de la Russie, on demande à la France de partir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'air, ce n'est pas le meilleur moyen de se défendre. Aujourd'hui, le problème du Mali, le problème de nos États africains, c'est la malgouvernance. Nous sommes mal gouvernés. Mal gouvernés par qui? Par nous-mêmes, par nos propres citoyens qui sont à la tête de nos États. Est-ce que vous voyez? C'est comme si dans la chanson le chanteur sénégalais Issoundour qui dit qu'il y a un petit crocodile, il y avait un petit oiseau qui chantait là, qui demandait qui appelait maman, cherchait sa maman. Il y a un crocodile qui s'est surgi pour demander « Viens, je vais vous protéger ». C'est ça l'Afrique aujourd'hui. Quand nous sommes dans la difficulté, nous cherchons toujours les grands États pour venir nous défendre. Alors qu'aujourd'hui, nous devons nous mettre en cause. Comment nous mettre en cause? Qu'est-ce qui a fait que nous nous trouvons dans cette situation difficile économiquement? Parce que tout simplement, nous avons été mal gouvernés. Pourquoi nous avons été mal gouvernés? Parce que nous avons refusé de respecter les textes que nous gouvernons. Parce que quand on est dans une république veut dire tout simplement que les hommes, les femmes et les hommes sont égaux devant la loi. Devant toutes les structures de l'État, les citoyens sont égaux. Est-ce que c'est le cas dans nos États africains? Tel n'est pas le cas. Le clientélisme est là, le népotisme est là. Aujourd'hui, quand vous voyez le Mali et la Guinée, le Burkina et le Mali et la Guinée se donnent la main parce qu'ils ont pris la conscience de se dire que seul le Mali ne pourrait pas faire face aux enjeux sociaux, économiques, etc. Seul le Burkina Faso ne peut. Il faut qu'ils se donnent la main de le faire. Mais je voulais préciser quelque chose aujourd'hui. La CEDEAO n'est pas une équipe ivoirienne ou une équipe sénégalaise. La CEDEAO, c'est les 15 États d'Afrique. C'est vrai, le bilan de la CEDEAO est un bilan très mitigé parce que la CEDEAO a été créée sous deux idéaux. Le premier idéal de la CEDEAO, c'est le libéralisme. la libre circulation des personnes et leurs biens. Quand vous regardez aujourd'hui, quand un Malien quitte Bamako pour aller au Sénégal, dans les frontières, les gens sont racketés. Nous sommes très loin du compte. Le second idéal de la CEDEAO, c'est quoi? C'est le panafricanisme, l'intégration sous-régionale. Vous allez voir que les Blancs... C'est pour cela que ces trois États ont compris aujourd'hui qu'il faut qu'ils se donnent la main, qu'il y ait plus de contacts pour faire face surtout. Le premier défi aujourd'hui qu'ils doivent relever, c'est le défi sécuritaire aujourd'hui. Donc c'est pour cela que le Mali et le Burkina, ils ont compris qu'il faut qu'ils se donnent la main pour faire face à ça. Parce qu'il n'y a pas assez de contacts, il n'y a pas assez de connexions entre ces deux États, surtout le Mali, entre le Mali et le Burkina.
À quoi faut-il s'attendre alors de ces pays envers la CEDEAO ?
Non, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une première étape de discours. Parce que qui parle des fédérations, c'est le modèle absolu du fédéralisme, c'est les États-Unis. Les Américains ont mis 10 ans pour pouvoir le mettre en place. Donc, il faut d'abord, quand on parle des fédérations, d'abord, il faut d'abord les études menées, il faut d'abord mettre en place une constitution. Mais je pense que c'est un discours un discours qui rentre dans le cadre.
Ministre Burkina,
voilà, c'est pour défier encore davantage la CEDEAO, parce que quand vous regardez le positionnement politique de la CEDEAO face à ces trois États-là, vous allez voir que c'est un peu injuste. Je dirais que c'est un peu injuste parce que moi, je pense que la CEDEAO ne doit pas être pompier lorsque les maisons brûlent. Elles viennent pour nous secourir. Donc la CEDEAO, la vie de la CEDEAO doit être au quotidien. Elle doit être aux côtés des populations de façon quotidienne. À chaque jour, qu'est-ce qui se passe au Mali? À chaque jour, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? En chaque jour, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? C'est ça la vision de la CEDEAO, doit être la vision de la CEDEAO. Mais malheureusement, nous avons constaté, lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des prises de pouvoir par les militaires, que nous voyons que les déclarations des sanctions de la CEDEAO viennent. Donc je pense que la CEDEAO doit changer de méthode.
D'accord. Monsieur Guiré, à quoi faut-il s'attendre de ces pays-là envers la CEDEAO?
Oui, mais avant même, vous savez, à l'introduction, je parlais de nos différentes inquiétudes. Parce que
effectivement, vous avez énuméré des inquiétudes. De quelles inquiétudes s'agit-il?
Oui, vous savez, la complexité avec une telle initiative, c'est que, vous savez, avec les réformes extraterritoriales, il faut du temps. Il faut du temps, il faut de l'approche, il faut de la rigueur. Et aujourd'hui, nous n'avons pas un document officiel qui peut nous montrer à quoi peut ressembler cette fédération, mais on se pose des questions, à savoir, est-ce que avec des régimes de transition, parce qu'aujourd'hui, vous voyez les programmes donnés, aucun de ces différents régimes, de ces différents pouvoirs ne va excéder le 2024. Donc, nous posons la question, à savoir, est-ce que pour un bref délai, on peut construire quelque chose de solide pour mettre en place une fédération qui pourra résister à toutes les tentatives. Et l'autre élément également, vous savez, une telle décision, une telle initiative nécessite justement l'implication ou l'approche juridique, c'est-à-dire pour questionner les populations, chercher à savoir justement l'avis des populations, des peuples justement sur une telle initiative. Parce que ce sont des décisions qui engagent la souveraineté des peuples et à ce que nous sachions, lorsque vous prenez les différentes constitutions, que ce soit celle du Mali, celle du Burkina ou celle de la Guinée, la souveraineté est reconnue et les constitutions, justement, ils connaissent la souveraineté donc de ces différents pays. Et l'autre élément également, il faut savoir que lorsque vous revisitez l'histoire, vous verrez que toutes les initiatives allant justement dans le sens du fédéralisme se sont fait fracasser les crânes, tout simplement parce
vous aurez la parole tout à l'heure après le Premier ministre burkinabé. Le Premier ministre du Burkina Faso a émis d'ailleurs le souhait de son pays le 1er février dernier lors de sa visite à Bamako de former une fédération avec le Mali, soulignant que pendant longtemps nous avons passé le temps à regarder ailleurs alors que les solutions sont juste à côté de nous. Suivons sa réaction.
Bon, il faut dire que depuis que le président Assimi Goïta est au pouvoir, le Mali est devenu comme une locomotive en Afrique noire. C'est une vraie révolution, même si on ne le dit pas. Et je peux dire même que vous nous avez inspiré au Burkina Faso. Vous avez montré que c'est possible. L'une des raisons pour lesquelles particulièrement je suis ici, c'est que nous avons constaté que pendant longtemps, nous avons passé le temps à regarder ailleurs, à regarder parfois dans le lointain, alors que souvent nos solutions sont juste à côté de nous. Et nous avons constaté aussi que ce que nous devanciers n'ont pas pu faire, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas le faire. Nos devanciers ont tenté des regroupements. Il y a eu la fédération du Mali qui, malheureusement, n'a pas duré. Et donc, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas réussir, ou en tout cas pour ne pas essayer. Le Mali est un grand producteur de coton. Souvent, les intégrations échouent à cause des hommes politiques. Nous ne cherchons pas à dominer, mais nous cherchons à avoir la force nécessaire pour être libre de déterminer notre destin. Donc, notre souhait à l'heure actuelle pour notre génération est d'entamer les démarches nécessaires pour qu'on se rencontre et pour qu'on essaie de jeter les bases d'un État fédéral. Il faut dire le mot.
Il faut dire le mot. Comment établir les bases d'un État fédéral? Vous venez d'écouter votre Premier ministre tout à l'heure.
Comme je le disais, vous savez, l'ambition, elle est bonne. L'idéal, il est bon. Et nous, notre inquiétude, c'est au niveau donc de la démarche. Parce qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi toutes les tentatives de fédéralisme ont échoué depuis 1960. Rappelez-vous, avec le président Thomas Sankara, nous avons eu cette tentative avec le Ghana à côté. Et vous savez également que la Guinée a eu cette tentative avec le même Ghana. Mais pourquoi ces tentatives ont échoué? Nous estimons que l'ambition, elle est bonne. L'idée, elle est très bonne. Mais là, dans la démarche, on aurait voulu justement une autre approche beaucoup plus juridique. Et tout ce que nous souhaitons à cette initiative, c'est le succès et la réussite. Parce que, comme il l'a si bien souligné, ce sont les ambitions que nos dévanciers, nos aînés ont eues. Et pourquoi pas justement aller dans ce sens? Mais dans l'ambition, dans la volonté justement de réussir, de voir justement cette fédération être une réalité dans 10-15 ans à venir, il faudrait justement que dans les différentes démarches, nous puissions travailler de sorte à ce qu'on n'ait pas de l'échec. Raison pour laquelle nous parlons naturellement de l'approche, surtout la procédure et la démarche que justement dans laquelle nous sommes présentement. Nous n'avons pas consulté nos parlements, nous n'avons pas également consulté nos peuples, nous n'avons même pas consulté nos acteurs, que ce soit ceux de la société civile, ceux du monde politique et même nos acteurs économiques. Donc la question, elle est très complexe. Il faut justement de la rigueur justement dans la démarche pour l'aboutissement à l'objectif visé.
D'accord. Il a dit tout à l'heure également que le Mali a inspiré le Burkina Faso. Est-ce que c'est les mêmes actions qui se passent ici au Mali, qui se passent également au Burkina Faso?
Oui, c'est en quelque sorte l'effet boule de neige, effectivement. Nous voyons aujourd'hui que les autorités burkinabées tentent de s'inspirer de l'approche diplomatique, de s'inspirer de l'approche militaire du Mali. Mais même s'il y a des exceptions, il y a quelques différences sur certains aspects du point de vue politique et même du point de vue économique et même du point de vue militaire. Vous avez vu qu'au Burkina Faso, il y a eu le recrutement justement des volontaires pour la défense de la patrie, ce qui n'a pas été le cas au niveau du Mali. Et effectivement, il y a une sorte de solidarité, il y a de proximité entre le pouvoir malien et le pouvoir burkinabé. Maintenant, nous saluons cela, nous louons justement cette solidarité et cette proximité, mais nous estimons qu'en tant que peuple, aujourd'hui, au 21e siècle, nous devons avancer dans la rigueur et dans la critique objective.
D'accord. Ce que nos aïeux n'ont pas pu réussir, nous n'avons pas d'excuses pour ne pas y réussir, pour ne pas y essayer, disait tout à l'heure le Premier ministre burkinabé. Quelles sont les voies et moyens pour réussir à cette ambition de fédération?
Merci. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est vrai que nos pays sont confrontés à la mauvaise gouvernance, donc qui mine toutes les initiatives, tous les projets de ce genre, même au niveau local. Mais il faut aussi reconnaître que, vous savez, les pays ne sont pas isolés les uns des autres. Les pays ont des relations au niveau des sous-régions, de la sous-région, au niveau continental et au niveau international. Donc, on ne peut pas faire autrement. Donc, on a des relations avec les uns et les autres. Et donc, souvent, ce que j'appelle la géopolitique, la géostratégie, joue également énormément dans nos prises de décision. Et d'ailleurs, c'est ça que beaucoup reprochent à la CEDEAO, à nos organisations effectivement sous-régionales, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, on les critique d'être en tout cas au service d'une puissance étrangère, notamment le cas de la France. Donc il est clair que parfois l'international, le jeu donc le jeu géopolitique, géostratégique joue énormément. Tant que nous ne nous affranchissons pas, et évidemment aux tutelles internationales, à certaines puissances internationales, notamment les puissances occidentales, tant qu'on ne s'affranchisse pas, nous ne nous affranchissons pas de ces pays-là, il va être difficile, autrement dit, tant que nous n'accédons pas à notre véritable souveraineté, il sera extrêmement difficile, en tout cas, que des projets de César puissent prospérer. Et d'ailleurs, ça a été le cas depuis les
indépendances. Est-ce qu'il y a de fortes chances de réussir à cette fédération?
Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, les trois pays, c'est-à-dire que ce qui distingue l'initiative d'aujourd'hui et puis celle qu'on a vue au moment des indépendances, c'est qu'au moment des indépendances, c'est que certains ont voulu effectivement aller à la pleine souveraineté et donc faire les choses à partir donc de nos propres initiatives, mais il y a d'autres qui se sont mis au service d'autres pays, tels que par exemple la Côte d'Ivoire de Fouffet Boigny, bien entendu, qui était le cœur de ce qu'on appelle la France-Afrique, donc qui a saboté pratiquement toutes les initiatives africaines allant dans le sens à donner de la véritable indépendance aux pays africains. Donc aujourd'hui, si vous prenez un peu la nouvelle initiative qui est sur la table aujourd'hui, à savoir la fédération entre ces trois pays, ce qui encourage et qui peut nous en tout cas donner espoir, c'est que vous prenez aujourd'hui le Mali. Et j'entends effectivement, c'est pas uniquement sur ce plateau que je l'ai entendu. J'ai entendu en tout cas des voix assez puissantes dire on ne retire pas sa main d'un cafre pour le donner à un autre cafre. Et donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas s'émanciper. Moi, je répondrai à ces gens-là. C'est-à-dire qu'aucun pays du monde, au moment de conquérir sa souveraineté, est obligé effectivement d'avoir des alliances. Vous prenez par exemple le cas des États-Unis. En 1776, lorsqu'ils se battaient contre l'Angleterre, les Français étaient là pour les soutenir.
Il nous reste 4 minutes avant de
donc, je termine par là. Donc, en 1945, si les États-Unis, si les Russes n'étaient pas là pour aider la France à se libérer du nazisme, la France n'allait pas être là où elle est aujourd'hui. Et le fait aujourd'hui que nos pays soient accompagnés par telle ou telle puissance, et il est un allié, elle est un allié de notre pays, et cette alliance est nécessaire. Donc ça ne veut pas dire que nous allons rester sous le joug de cette puissance-là, mais pour se libérer de l'ennemi, nous avons effectivement besoin de tisser des alliances à l'intérieur, comme le Burkina Faso, l'initiative qui est en cours, mais également avec d'autres puissances effectivement qui peuvent nous aider dans ce sens-là.
D'accord. Monsieur Camara, à défaut de cette fédération, comment maintenir le lien de coopération gagnant-gagnant entre ces trois pays?
Oui, c'est possible. Ces trois États, ils savent déjà quels sont le problème majeur de ces trois États-là. C'est des questions d'abord sécuritaires, c'est des questions économiques, c'est des questions géopolitiques, géostratégiques. Donc ça aide de se retrouver autour d'une table pour essayer de regarder le contour, dégager le contour de qu'on appelle de cette nouvelle alliance qui ne sera pas la fédération. Je suis sceptique pour la fédération parce que la fédération veut dire tout simplement beaucoup de temps. Il faut mettre en place une constitution et il va avoir le problème de leadership qui va être à la tête de cette fédération. Donc je pense aujourd'hui, ce que les trois États peuvent faire aujourd'hui, c'est de se retrouver avec les experts, regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'abord sur les questions, prendre en charge d'abord les questions militaires, les questions économiques et d'autres questions pour voir, pour permettre aux différentes populations vraiment de regagner d'avoir leur localité, parce qu'il y a les réfugiés maliens qui sont dans la sous-région, il y a les réfugiés burkinabés, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est de se retrouver les trois États pour dégager le contour d'une union vraiment solide.
Dernier tour de table, lutte contre l'insécurité dans la zone sahélo-saharienne. Les trois délégations ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts et ceux des pays de la sous-région et de la région pour faire face au fléau. Monsieur Guiré, cet appel pourrait-il être entendu par les autres pays de la sous-région?
Oui, nous pensons que c'est possible parce que cette initiative est une manière pour ces trois pays d'éviter la CDAO, comme monsieur le disait si bien, de revoir justement les différentes mesures, les différentes initiatives à l'endroit justement des pays où il y a des coups d'État. Et cette mesure également pourrait justement inviter la CDAO à repenser beaucoup plus, à être beaucoup plus dans l'ambition en allant également dans la création de la CEDEAO et dans la fédération au niveau de la CEDEAO. Il n'est pas exclu que dans 5-10 ans, nous puissions nous retrouver justement dans une sorte de fédération entre les États justement de la CEDEAO. Et il n'est pas exclu également que d'autres États justement rejoignent le Mali, le Burkina et la Guinée dans une seule initiative.
D'accord. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Le technicien me fait signe que le temps nous fait défaut. Merci en tout cas à nos invités. Nous n'avons pas pu terminer en tout cas ce débat jusqu'à aller au fond. On aura peut-être une autre occasion pour aller au fond de vos idées. C'est la fin de ce grand dialogue. Merci à nos invités. Jean-François Camara, enseignant-chercheur à l'Université de sciences politiques et juridiques de Bamako. Bakabini Keïta, directeur de l'Observatoire du pouvoir et de la société. Assamadou Guiré, chargé de projet à la Société Burkinabé de géopolitique. À la présentation, je suis Imrana Akilo Meiga. Ce débat a été coordonné par Sekou Agadjougo. Merci de l'avoir suivi et à demain.